C'est totalement supersonique, bonsoir. Sons vrais, sons recréés, sons bidouillés, solo, mélangé, mixé. C'est fou le nombre de combinaisons possibles. C'est fou. Son du dehors, installé dehors, mais composé. Son du studio, l'instrument studio, manipulé au millimètre. Musique, oui, mais non, mais oui. Et aux origines, une boulangerie, c'est bizarre, dit comme ça. Vous verrez les androïdes, on comprendra tout avec Eddy Ladouar, l'artiste qui sera avec nous tout à l'heure. Ladouar qui produit pour le théâtre, notamment comme notre invité de la première partie qui a remporté 3 fois le prestigieux prix Europa. Rien que ça, modeste, impliqué et constant dans le mouvement de l'enregistrement. Il s'agit de Mehdi Aoudig, documentariste sonore, curieux et praticien des nouvelles formes, car la culture a ses machines, les machines ont leur culture. Salut les androïdes. Et salut Mehdi Aoudig, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous pour parler, voilà, pendant cette première partie d'émission, de votre parcours d'homme de son qui est assez multiple et qui a été récompensé, je le disais, l'année dernière, enfin il y a quelques mois, par un 3e prix Europa. Je ne sais pas si ça existe beaucoup. Le prix Europa, c'est un prix européen de médias. Il y a plein de catégories différentes, notamment la radio, notamment les nouveaux médias. Et vous, vous avez eu 2 fois celui de la radio. La dernière fois, c'était donc l'année dernière, pour un documentaire qui s'appelle « Poudreuse dans la Meuse ». Et puis, vous avez aussi celui pour les nouveaux médias. Alors, comment on ressent ça? C'est une fierté? On est content? Partage? Comment ça se passe?
Oui, bien sûr, ça fait toujours plaisir de évidemment recevoir des prix. Pour ce qui est du partage, le premier, je l'ai eu avec Anouk Batar, donc on a partagé le prix. Le deuxième, je l'ai eu avec Samuel Bollendorf online, donc on a aussi partagé le prix et je lui ai même laissé la statue.
C'est quoi la statue du prix Europa?
C'est un taureau en bronze. Et puis le dernier, je l'ai eu avec Arte Radio, mais plus j'ai signé le documentaire seul en tant qu'auteur, donc j'ai gardé. Donc maintenant j'ai 2 taureaux chez moi.
2 taureaux chez soi, ça prend un peu de place, surtout quand ils sont en bronze. Non, mais vraiment effectivement, Poudreuse dans la Meuse, qui est un des documentaires les plus marquants de l'année dernière et je pense de ces dernières années, documentaire sonore, radiophonique. Il faut en parler très vite parce que c'est d'abord c'est une véritable enquête, on peut dire ça, non? C'est une enquête que vous avez menée, enquête documentaire.
Oui, j'ai essayé de partir un peu sur le thème de l'enquête, pas spécialement l'enquête journalistique dans le sens où j'ai pas remonté la filière de toute l'héroïne dans la Meuse, j'ai pas été à Maastricht, j'ai pas cherché les trafiquants, j'ai pas essayé de voir qui importait tout ça en Europe. Mais c'est une enquête plus proche des consommateurs, des gens qui travaillent dans la justice, qui travaillent dans la médecine, ainsi de suite, comment ils gèrent tout ça en milieu rural, quoi.
Vous faites raconter, vous recueillez la parole de ceux qui vous permettent de raconter l'histoire, ou en tout cas de décrire quelque chose qui, on va dire, intuitivement peut être étonnant. C'est la chose qui est la Meuse, le département de la Meuse, est une plaque tournante de l'héroïne en France.
Alors, plus que plaque tournante, c'est un endroit où on en consomme énormément. C'est le département dans lequel on consomme le plus d'héroïne, ce qui est très étonnant. Le procureur, tous les gens qui sont acteurs sur ces questions-là dans le département m'ont dit qu'il y en avait dans tous les villages. Il n'y avait pas un seul village où il n'y avait pas la présence de l'héroïne et de consommateurs d'héroïne. Donc effectivement, au départ, il y a effectivement cette question qui est étonnante. Après, ma première motivation, ça a été la rencontre avec Yves Leclerc, qui était le procureur de Verdun, parce que maintenant il est à Longwy. Et je l'ai rencontré sur un film de prévention, c'est comme ça que j'ai découvert le sujet d'ailleurs. Je travaillais comme ingénieur du son sur un film de prévention institutionnel. Et on a fait un interview de lui, il était assis dans son bureau, il avait les pieds sur la table, il fumait des clopes, il avait une grande affiche des Tontons Flingueurs, et il avait quand même quelque chose qui était particulier, qui m'a attiré, et je lui ai demandé si éventuellement une émission de radio était possible. Et il m'a répondu que oui, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
C'est comme ça que ça a commencé, mais après vous êtes retourné plusieurs fois sur quoi, une période d'à peu près 2 ans, c'est ça?
Oui, alors entre le moment où je commence les enregistrements et le moment où je diffuse, il y a effectivement 2 ans. Après, je pense que c'est plutôt sur une année. J'ai dû y aller 6-7 fois, je crois. J'avais demandé à Chloé Sousse-Plugnan à Arte Radio combien de fois j'y étais allé. À chaque fois, je lui redemandais des billets, je lui redemandais des hôtels et ainsi de suite. Et donc, voilà, elle m'a confirmé que c'était 6-7 fois que j'y étais allé pour enregistrer. Et bah effectivement, j'attendais des situations. Bon, il y a beaucoup de situations de consultation, de passage devant le juge, des applications des peines, des choses comme ça. Mais j'attendais aussi qu'il se passe des choses au niveau de la police. Et ça, c'était assez compliqué parce que je voulais absolument essayer d'être au plus proche d'une intervention. Et en fait, c'était compliqué parce qu'évidemment, ils n'allaient pas me prévenir une semaine avant. Donc il m'a prévenu, Yves Leclerc, il m'a dit qu'il me préviendrait, il était très collaboratif et il m'a prévenu un matin à 7h en me disant dans 2 heures c'est fait quoi. Mmh. Donc j'ai pas eu le temps d'arriver au moment de l'intervention, mais j'étais pendant la garde à vue à l'intérieur de la gendarmerie, voilà.
Donc effectivement, Poudreuse dans la Meuse, ce documentaire que vous avez signé l'année dernière, Média Audig, donc je rappelle qu'il y a eu ce prix Europa remis à Berlin. Il faut du temps en fait pour avoir les rencontres et puis avoir les différences de rencontres et de situations. C'est pas courant d'avoir ce temps-là.
En fait, là j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir dans le mode de production d'Arte Radio, qui est effectivement pas une radio de flux et qui fait que bon, on commence un documentaire, on a un peu de liberté sur le moment où on le termine. Ce qui est un mode de production moi qui me convient bien puisque j'ai différentes cartes et que du coup je passe d'une chose à une autre, je laisse le documentaire de côté, mais finalement ça a une vertu qui fait que le documentaire se décante quoi. Mmh. Et permet évidemment les contacts, de revenir sur le montage et ainsi de suite quoi.
Un documentaire qui se décante et donc qui donne en l'occurrence ce Poudreuse dans la Meuse, c'est Yves Leclerc en l'occurrence qui ouvre le documentaire, c'est lui cette rencontre pour
la première. Toute première voix, c'est pas lui, c'est un consommateur. C'est un consommateur qui est duquel j'ai retenu que les premières phrases du documentaire, qui est une présentation du département de la Meuse tout à fait subjectif et qui n'engage que lui.
Et très vite on entend Yves Leclerc et on entend aussi les Tontons Flyers. On voit pas l'affiche évidemment, c'est du son, mais on les entend aussi, vous allez voir, c'est le début de Poudreuse dans la Meuse, on peut dire un coup de poing documentaire de l'année dernière.
C'est l'horreur, la Meuse, c'est l'horreur, 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 l'horreur. Vous ne croyez pas? C'est d'une noirceur, d'une épaisseur, d'une glauquerie, ça n'a pas d'âme. C'est mort. C'est le pire endroit au monde. J'espère pas y rester très longtemps.
Cette position géographique, donc à la frontière nord-est de la France, qui nous place à peu près 2 heures, 2h30, donc des Pays-Bas. Eh bien, le principal produit consommé, c'est l'héroïne. Meuse a donc ce triste privilège d'être le premier département de France sur l'usage d'héroïne, avec des chiffres qui sont 4 à 5 fois supérieurs à la moyenne nationale, quoi. La plupart de nos consommateurs, l'initialisation a été faite à l'occasion de soirées où il y avait des consommations dans une première partie de soirée de produits type ecstasy, toutes sortes d'excitants, et où celui qui initie à ça explique aux consommateurs que pour redescendre, il faut prendre un petit peu d'héroïne. Eh bien, Yves Leclerc, donc magistrat et du parquet, et j'occupe ici donc les fonctions de procureur de la République. La grande difficulté, c'est que la population et globalement les parents.
Oui, rebonjour madame. Je voudrais savoir si je peux voir monsieur Leclerc.
Eh bien, se croient préservés parce qu'on vit à la campagne. Pour eux, c'est l'image d'une problématique de banlieue de grande ville éloignée, qu'ils vont voir à la télé, etc. Or, le produit, il est à leur porte.
D'accord, ok. Ben, j'attends dans le couloir. Je vous remercie.
L'avantage sur la télé, c'est qu'on peut fumer dans ton métier. Ouais, Régis.
Comment
vas-tu ? Ça va. Je suis avec notre camarade Mehdi de Arte. Vous en êtes où, là ? Donc, vous en avez cravaté deux autres ce matin, c'est ça ?
Donc, on en a cravaté cinq autres ce matin.
Ah ouais, d'accord, t'as fait toute la razzia, quoi.
Ah okay. Oui, bon, on a fait le réseau, quoi.
Okay.
Donc, on a fait deux hier sur le retour.
Mm-hmm.
Et on a déclenché l'opération ce matin. Est-ce que les cinq objectifs sont pris ? Je pense que oui. Quand je dis que Verdun, c'est un terrain de jeu pour les stups, c'est réellement un terrain de jeu. Et au niveau de la saisie, donc, je pense que tu as informé qu'on a ressaisi donc, 515 grammes d'héroïne.
Ouh la vache ! Ah ouais, bien !
Ah oui, très bien, on est content.
Plus les 180 d'hier, ouais, belle prise ça.
C'est bien que j'ai la main verte, Yves, quand je me déplace.
Ah ouais, ouais, non, je sais bien. Ah ouais, bien. Oui, ça y est, j'ai les messages qui sont sur mon ordi. Donc ouais. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, je les ai tous.
Ah, j'ai dit à Doudou, tu n'étais plus à la verre de commerce maintenant. Nous, on ne travaille pas en dessous de 700 grammes.
La vache,
ah,
ouais. Ah ouais, non, bien. Bon, super. Hein.
Donc on a 700 grammes en tout, quoi.
D'accord, ouais, donc ça commence à être sérieux, quoi.
On est aussi, nous, avec notre camarade Mehdi, comme dit l'interlocuteur qu'on vient d'entendre dans le début de Poudreuse dans la Meuse, Mehdi Aoudic, donc ce documentaire qui a remporté le prix européen l'année dernière, et cette année un prix au festival Longueur d'onde à Brest, donc Poudreuse dans la Meuse, dont la mise en onde est co-signée Samuel Hirsch, et qu'on peut entendre et qu'on ne peut que conseiller d'aller écouter sur arteradio.com. On vous a entendu, vous, dans ce début de documentaire, dans ces premières minutes, la présence de votre voix, ça compte ? C'est une volonté particulière ? Ça s'est trouvé comme ça ?
J'aime bien laisser quelques traces, mais pas des traces trop signifiantes, c'est-à-dire pas nécessairement des commentaires, des questions, des choses comme ça. Mais par exemple, c'est sûr que quand Yves Leclerc m'appelle, je dis je suis avec mon camarade Mehdi, ça me plaît évidemment, parce que c'est ça me plaît plus que je suis avec Monsieur Aoudic, le journaliste d'Arte, quoi. Donc voilà, j'essaye de laisser des petites présences comme ça, mais en général, je coupe mes questions.
Mais c'est une pourquoi finalement ? C'est pour assumer la présence, pour dire ça tombe pas du ciel.
Là, j'avais envie d'essayer aussi de créer une espèce de déambulation et donc une identification possible à moi, je veux dire d'une certaine manière. Mais en tous les cas, de quelqu'un qui cherche, qui cogne aux portes, qui va rencontrer des gens. Voilà, c'était un peu la volonté de ça, mais du coup, faut pas que ce soit quelque chose de trop personnel, de trop subjectif, quoi. Faut que ce soit vraiment dans une situation d'une grande banalité, quoi.
Alors, j'ai vu que quelqu'un qui s'appelle Juliette Volclair a fait un article sur votre travail sur le site saintone.fr, qui est une revue, notamment en ligne, puisqu'elle existe en papier désormais, et en parlant de votre démarche à vous, votre démarche documentaire, elle parlait du déplacement comme manière de qualifier votre travail. Ça, vous y reconnaissez dans cette idée du déplacement aller vers ?
Oui, alors cet article, c'est assez étrange parce qu'en fait, avec Juliette Volclair, on ne s'est jamais rencontrés. Donc, elle a juste écrit cet article qui est un portrait à l'occasion des 10 ans d'Arte Radio et elle l'a écrit uniquement en écoutant ce que je faisais. Et je me souviens que j'étais dans une chambre d'hôtel, je ne sais plus très bien où, mais tout seul. J'étais un peu déprimé et c'est Sylvain Gire qui m'envoie un mail en me disant « Tiens, il y a un article. »
Qui est le patron d'Arte Radio.
Oui, qui est le directeur d'Arte Radio. Et là, j'ai lu l'article et c'est vrai que ça a été assez étonnant pour moi, parce qu'elle disait des choses que je savais, mais que je formulais pas.
Ouais, ouais.
Et ça, c'était assez intéressant. Et puis le lendemain matin, je reçois un coup de fil de ma sœur qui avait lu aussi l'article et qui me dit « c'est incroyable ce qu'elle dit sur toi, c'est dingue, la culture du secret, le déplacement et ainsi de suite ». Et c'est vrai que, oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre du déplacement et qui me vient peut-être, enfin je sais pas, peut-être que c'est une reconstruction après, mais en tous les cas, je sais que j'ai un cousin au Maroc, dans le sud, avec qui je me balade beaucoup. Et il me fait, à chaque fois que j'y vais, il me fait marcher des, il fait très chaud l'été, souvent. Il me fait marcher pendant des heures pour aller voir des gens que je connais pas, qui sont pas spécialement de ma famille. Et un jour, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi on marche trois quarts d'heure aller, trois quarts d'heure retour pour voir une personne trois minutes? Et il me dit, bah, parce qu'il y a une espèce de vertu dans le fait de se déplacer, d'aller voir les gens, ça suffit juste pour leur montrer qu'on a un intérêt pour eux, quoi. On n'a même pas besoin d'y rester très longtemps. Oui. Et je pense que c'est quelque chose que je tente de reproduire dans mon travail documentaire.
Ouais, c'est même presque une possible définition du travail documentaire.
Ouais, c'est possible, ouais.
Non, si on va faire une sorte de blind test, vous allez nous dire si vous reconnaissez ça.
Je pense que c'est peut-être le générique du Vif du Sujet. Non ?
Exactement, c'était l'indicatif d'une émission de France Culture, le Vif du Sujet.
Le Vif du Sujet.
Bah voilà, on nous le dit. Produite par Alexandre Hérault, émission documentaire, dont il s'agissait d'aller revisiter ou faire revivre certains faits divers par le biais du documentaire. Et ça fait partie de vos écoutes qui vous ont marqué.
Ouais, alors ça c'est une écoute qui m'a marqué parce que c'est un peu le vif du sujet, c'est un peu la première émission de radio qui je faisais déjà du son mais plutôt pour le spectacle vivant. Et c'est la première émission de radio, où je me suis dit tiens, c'est peut-être possible que je fasse quelque chose de cet ordre-là. J'aimais beaucoup évidemment cette émission, j'aime beaucoup la radio dans énormément de formes. Mais je me sentais pas spécialement l'âme d'un animateur, par exemple. Ou il y avait, j'aimais beaucoup les ACR aussi avec René Farabet, Kay Mortley, et ainsi de suite. Mais ça me paraissait comme quelque chose d'un peu inaccessible. Et tout à coup, le vif du sujet, il y avait quelque chose qui résonnait plus et qui a été le début de déclencher cette envie de faire du documentaire radio, quoi.
Après en avoir écouté beaucoup, ou il y a eu une forme d'évidence des premières écoutes?
Ah non, j'en ai écouté beaucoup, je ne sais plus très bien de quelle année je parle, mais enfin j'en ai écouté beaucoup, le vif du sujet, ensuite il y a eu d'autres émissions, beaucoup sur culture, qui m'ont marqué, qui m'ont donné envie, qui m'ont fait ressentir des choses et aller vers ce chemin, et puis surtout, il y a quand même la création d'Arte Radio qui pour moi a été un endroit dans lequel je me sentais bien, quoi, d'y aller, il y avait un aspect un peu laboratoire. Radio France, j'étais un peu plus impressionné par la maison, donc c'était moins évident. Mais voilà, c'est vraiment Arte Radio. Il y a eu une expérimentation qui est arrivée au moment où moi aussi j'expérimentais. Donc du coup, ça a permis la rencontre. Quoi.
Une expérience qui venait d'un travail sonore qui était au théâtre, c'est ça, c'est ce que vous disiez au départ. C'est plutôt par là que ça a commencé.
Oui, c'est par là que ça a commencé. C'est au théâtre et particulièrement. Avec un spectacle de danse, c'est là où j'ai rencontré Kay Mortley. J'avais fait un travail autour d'Antigone et j'avais récolté un peu de la parole qui pouvait s'apparenter à de la parole un peu documentaire autour de ce thème d'Antigone. Et Kay Mortley a vu le spectacle et en fait elle est venue me voir et elle m'a demandé si elle pouvait utiliser quelques petits modules sonores de la pièce parce que elle-même travaillait sur Antigone de Beauchaux sur un ACR. Et donc, en même temps, elle m'a invité à venir voir les studios de Radio France et j'avoue que j'étais assez impressionné. Oui. Elle avait fait un travail où elle avait demandé aux danseurs de redanser dans un studio comme ça avec des micro-contacts et ainsi de suite. Et moi, j'étais dans le studio et j'entendais ce que ça rendait et c'était quelque chose d'assez, c'était assez marquant, quoi.
Kay Mortley, qui est une documentariste, on va dire, fameuse de France Culture et de différentes émissions la nuit, souvent, de ce type de travail qui peut être entendu comme ça, mais qui aussi à former une partie des gens qui font de ce type de
beaucoup,
son
oui.
et de son créatif aujourd'hui en France à travers certains stages qui ont lieu encore aujourd'hui à Arles. Et finalement, vous avez pris de la manière le relais. Enfin, vous avez même travaillé avec elle dans ce cadre-là.
En fait, tous les ans, j'anime avec Kay Mortley un stage de réalisation de documentaires radio. Et puis, parfois, je donne une formation plus initiation seule à un phonurgien. Et effectivement, ça fait quelques années que ça dure. Et c'est assez marrant parce que moi, maintenant, j'ai assez de recul pour voir pas mal de gens qui sont à Radio France, à France Culture. Je dis pas nécessairement que c'est le stage qui les a amenés là, mais en tous les cas,
à l'oreille, vous reconnaissez ce passage-là? À l'oreille, vous reconnaissez qu'ils sont passés par tel ou tel endroit ou
Non. Non, quand même pas. Mais c'est vrai que bon, il y a plein de gens dans cette maison que j'ai croisé en stage, en fait, que j'ai eu en stage, quoi, et c'est assez agréable.
L'intime, parce que on parle de déplacement, on parle de, par exemple, de Poudreuse dans la Meuse, de, on va dire, de documentaire construit un peu au long cours, qui prend du temps. Mais il y a une dimension dans votre travail qui est la captation du plus proche aussi.
Ouais. Et ça, je sais pas, je sais pas très bien ce que je cherche par là, mais
vous enregistrez tous les jours ou quasiment régulièrement vos proches autour de vous?
Dans ma vie, j'ai un peu plus. Au début, je le faisais beaucoup. Je le fais beaucoup moins. J'ai beaucoup enregistré ma fille, par exemple, qui a maintenant 17 ans et qui se laisse un peu moins faire que quand on en avait 6. Mais je le fais un peu moins. Mais c'est vrai que ma formation a été essentiellement celle-ci, c'est-à-dire effectivement d'avoir un enregistreur sur moi, d'enregistrer, de réécouter, parce qu'il y a effectivement cette étape entre. Il y a l'étape de assez grisante d'enregistrer, mais il y a l'étape beaucoup moins grisante qui est de réécouter et de trier, quoi. Et du coup, je me suis pas mal formé comme ça, avec mon enregistreur dans la poche et en enregistrant mon quotidien, quoi. Mmh.
Votre fille, c'est celle qu'on entend dans Mademoiselle Rêve?
Oui, tout à fait, ouais.
Oui, on l'écoute.
Hé, hey, papa. Quoi? T'es dingue, hein. T'es dingue, là, tu vas enregistrer tout. Mais
non, je te promets, l'enregistreur.
Non, mais... Pas dans le micro. J'ai fait un rêve. Quel est ce rêve? Écoutez bien aussi, je peux dire. J'étais avec Nemo à un parc. Écoutez bien. Et en fait, j'avais la robe de mariée sur moi. Et il y avait aussi Hermione et Ron. Mais c'est gentil. Là, tu les connais pas. Voilà pourquoi je les vois du mardi. De toute façon, tu n'as jamais regardé.
Et c'est qui?
Rien, mais... Ron, c'est des amis à Harry.
C'est qui, Harry?
Harry Potter. C'est Hermione, Harry Potter, Ron qui marche, la cicatrice d'Harry Potter. Elle lui fait très, 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 très mal. Mais il est fou, lui. Il enregistre même la couverture. Des cerises et puis après Emma elle est tombée dans la boue et puis après pour toujours elle est restée. J'étais à Limoges et papy et mamie, ils m'ont acheté une surprise. Papa, j'ai pas envie de le faire dans le micro.
Allez, vas-y.
Je sais que tu le fais dans le micro. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt. va dans son oreille, après dans son nez, et ça fait un yaourt aux crottes de nez et aux crottes d'oreille, et il l'a mangé. Si tu viens du ciel, tu viens d'une autre planète. J'avais les cheveux un peu comme la belle au Waterman, sauf qu'il y avait un peu de gris en bas. 3 devant soi, on peut pas aller tellement, tellement loin. J'ai rêvé que j'étais à Limoges avec papy et mamie. Il y avait aussi Emma et Manon. Après, on allait partir à Paris. Mais Manon et Emma, elles voulaient partir avec nous. Mais papy et mamie, ils voulaient pas. Ils voulaient qu'ils rentrent chez eux. Elles avaient envie de rentrer à Paris avec nous parce que plus jamais on allait les revoir. C'est pour ça. Et ben, parce que leurs parents, ils étaient morts. C'est tout, papa.
Il joue ?
Quoi ?
Qu'est-ce que tu fais ?
Mais je m'habille !
Ben, je voudrais t'enregistrer.
Mais papa, tu vas pas m'enregistrer quand je m'habille !
Faudrait peut-être l'arranger. Ben alors, dis-moi, t'as fait quoi comme rêve cette nuit ?
Bah en fait, cette nuit, je te le dis. Bah en fait cette nuit je rêvais que je tombais enceinte et en fait mon copain il voulait faire enfin en fait on était séparés et au lieu de faire garde partagée il voulait avoir la garde à plein temps et du coup je l'avais au téléphone et j'étais dans le métro, j'étais sur la 7 bis entre le changement sur la 7 et la 7 bis et j'étais avec une amie qui me réconfortait parce que j'étais en train de pleurer parce qu'il me disait qu'il allait me traîner en justice et qu'il voulait la garde pleine de l'enfant. Voilà. Mes rêves éveillés ?
Ouais, de quoi tu rêves pour ta vie future ?
À ton avis, de musique.
C'est-à-dire ?
Enfin, je veux être dans un orchestre, je veux vivre dans un orchestre. En fait, je veux passer ma vie dans un orchestre, je crois.
Ah oui, le temps passe, hein. Média Audi, c'est oui, que c'était fait. La même petite fille qui est devenue plus grande qu'on a entendue dans cette production qu'on trouve à la fois sur Arte Radio, encore une fois dans une version plus courte, et puis sur saintone.fr, Mademoiselle Rêve. Il y a une partie de votre travail qui se mélange aussi à d'autres formes. Alors on a parlé du théâtre évidemment, mais avec le photographe Samuel Bollendorf, Média Audi, vous avez inventé un duo, tous les deux, qui mène différents travaux régulièrement à destination en fait du support web pour l'image, le son mélangé, mais dans une forme, on va dire, qui se veut nouvelle, en tout cas inventive.
Oui, en fait, je crois que c'est une chose très simple, c'est qu'avec Samuel, on a décidé de travailler en co-réalisation, c'est-à-dire que c'est un peu l'une des rares fois où le son, à part à la radio, où il est vraiment complètement autonome. Mais sinon, c'est un peu une rare fois quand il accompagne l'image. Il est souvent un petit peu le petit soldat, comme le dit Daniel Dehay, le petit soldat de l'image. Et là, c'est pas le cas. On intervient tous les deux sur le média de l'autre. Et évidemment, je reste opérateur son, il reste opérateur image. Mais voilà, on a vraiment une attention aux deux. Et c'est l'alliance des deux qui produit ce qu'on fait pour le web.
Là, on peut dire vraiment que sur ces productions-là, on peut citer À l'abri de rien, qui est tout un travail sur le mal logement, ou La parade, plus récemment. On s'en compte, véritablement, vous avez réussi l'équation compliquée qui est 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que chacun, effectivement, a sa partie, mais alors il y a le travail sur l'image, fixe et parfois animé, et le travail du son qui présente... On peut dire que c'est le hors-champ, voilà, ça élargit l'image qu'on a en face de soi, ça marche avec.
Oui, c'est exactement ça. Et puis je crois que le 1 plus 1 fait 3, c'est exactement ça. Parce que je crois aussi que ce qui fait que ça se passe bien... Parce que la première fois qu'on s'est rencontrés avec Samuel, on ne se connaissait pas. Et puis on était au café, puis on s'est dit, bon, en gros, il y a peu de chances qu'on devienne potes. Parce que moi, j'ai besoin de champ pour prendre mes images. Et puis toi, tu as besoin de te rapprocher pour prendre le son. Donc déjà, on a posé dès le départ la contrainte qui est quand même assez énorme. En plus, lui, il fait du bruit avec son appareil. Enfin, vraiment, c'était pas gagné, quoi. Et je crois que le 1 plus 1 fait 3, c'est effectivement juste. C'est-à-dire qu'avec Samuel, quand on travaille, on ne parle que de l'objet qu'on produit, en fait. Et bien sûr, il y a les affects, les égos qui rentrent en jeu. Mais en tous les cas, c'est vraiment ce qu'on produit qui a le dernier mot, quoi. Donc du coup, ça finit par marcher.
C'est quoi l'histoire de La parade ?
L'histoire de La parade, c'est une web série en fait qu'on a fait pour France Télévisions, qui a été diffusée sur lemonde.fr et qui tente d'aborder les cultures populaires du nord de la France, donc le tuning, les coqs de combat, la colombophilie, les géants, les majorettes évidemment. Et on suit les gens sur un an. Il y a encore cette histoire de durée. On les suit sur un an et on tente de raconter leur épanouissement par ces passions, quoi.
Vous dites que c'est un conte post-industriel. Il y a une sorte de mise en forme de fiction un petit peu, non ?
Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs l'une des problématiques qu'on a eues parce qu'on a travaillé un an là-dessus, on a capté des sons et des images pendant un an. Donc évidemment, on y allait avec une démarche, lui comme moi, documentaire, très documentaire. Et puis, pendant un an, il se passe des choses dans la vie des gens, et particulièrement un drame chez une majorette qui perd un bébé très jeune. Et du coup, qui nous ont demandé de poursuivre le travail, parce qu'évidemment, on était quand même parti sur quelque chose de très positif. On n'avait pas envie de refaire quelque chose qui soit... parce que l'enquête sur le mal logement, évidemment, c'était un peu le...
C'était dense.
Voilà. Et là, on avait envie de partir sur quelque chose de positif. Il se passe ça dans la vie de cette majorette. On se dit que, a priori, on va leur proposer de laisser tomber. On les suivit déjà depuis quelques mois. Et puis, elles nous disent, non, en fait, on a besoin que vous continuiez et que vous en parliez. Donc, on a mis du temps à le traiter. On n'arrêtait pas de repousser le moment parce que, voilà, c'est une histoire terrible. Et du coup, on le traite dans l'épisode 4 de la série. Et ensuite, on se dit, après, on peut pas revenir sur une forme documentaire complètement classique. Il faut qu'on aille ailleurs. On avait ce ressort des géants, qui est quand même un univers poétique très fort.
C'est ce qu'on voit, dans les défilés de carnaval, c'est ça?
C'est ça, ouais, exactement. Alors, il y a les géants de Douai, qui sont les plus célèbres, qui sont patrimoine mondial de l'UNESCO, et ainsi de suite. Mais il y a, dans beaucoup de villes du Nord, il y a effectivement ces géants qui sortent au moment du carnaval. Et du coup, on a utilisé ces géants où on les a mis en scène, dans différents lieux qui étaient souvent post-industriels, c'est-à-dire le Terry, une ancienne cité minière, des choses comme ça, abandonnées à Lens, des choses comme ça pour créer quand même un univers plus onirique, quoi. Et du coup, on a été, sur les derniers épisodes, on a vraiment dû tirer sur la matière parce qu'on voulait moins en moins de matière documentaire. Or, c'est ce qu'on avait quand même capté, quoi.
Voilà. Le réel, avec la voix de François Morel pour introduire ces épisodes. Donc, on peut retrouver en ligne. Et parmi les rencontres que vous faites, il y a Jonathan. C'est ça, Jonathan, l'homme Vectra. Vous parliez de tuning. On le trouve dès le premier épisode, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça.
Voilà, La parade, extrait de l'épisode 1.
Ah non, j'aime pas moi d'origine. Une voiture d'origine, à la rigueur, c'est bien pour ceux qui vont chercher du pain pour les vieux, mais pour moi, hors de question. Au minimum, c'est une paire de jantes et un glace teinte. Minimum. Minimum syndicole, chez moi.
42,7 en top jantes.
Ça fait 4 ans que je travaille dessus, pour avoir le résultat que vous voyez. Les portes avant, on les a fait nous-mêmes.
Le numéro 115.
Avant de la faire en peinture, j'ai mes portes arrière à faire. Parce que je les passe en porte suicide, donc c'est comme les taxis londoniens, dans le temps. Les portes à l'envers. Ensuite, elles passeront en peinture.
Ensuite, le top trap à essence.
Après, on n'est pas tous ministres. Hein. Si je le fais moi-même, c'est parce que j'aime, et j'ai pas un budget de ministre. Voilà. Parce que si j'aurais de l'argent, vous regardez, la plupart des machines, c'est fait chez des préparateurs ou des machins. Ouais, mais paf, les mecs, ils allongent. Moi, j'ai la fierté derrière. Voilà.
Jonathan, dans ce conte documentaire La Parade, signé Samuel Bollendorf et Mehdi Aoudig. Mehdi Aoudig qui casse donc certaines choses pendant les tournages, en l'occurrence. Vous avez cassé la porte d'une voiture de Jonathan, c'est possible?
Oui, tout à fait. Oui, j'ai voulu la manipuler et c'était une porte suicide, donc elle s'ouvrait pas dans le sens dans lequel j'avais prévu.
J'ai senti parler à l'instant, voilà. D'accord. Donc vous ferez attention la prochaine fois.
Oui, je ferai attention.
Mehdi Aoudig, vous travaillez sur quoi en ce moment? Vous menez de front des projets, à un moment donné ça mûrit, ça devient plus concret, et comment vous avancez?
Ben, j'avance un peu, je tâtonne, mais je suis en cours de montage à Arte Radio sur un garçon qui habite Villiers-le-Bel et qui quitte sa cité, et qui va habiter dans les pavillons à 500 mètres. Voilà, je suis en cours de montage, donc je sais pas très bien où est-ce que ça va. Mais en même temps, je suis en tournée avec François Morel, qui a son spectacle.
Pour le travail au théâtre, là.
Voilà, ouais. Travail au théâtre, où là, c'est un travail plus technique, où on adapte à chaque date le son et les différents éléments. On va en résidence avec Samuel Bollendorf pour écrire l'exposition de La Parade, qu'on va faire à Los Angeles. Voilà, je viens de tourner une chose que je montrais qu'au mois de juillet, qui est pour un nouveau média qui s'appellera Boxon, et qui est le portrait d'un maire d'une commune de 150 habitants qui tente d'administrer autrement sa commune. Et je pense que ça peut être assez drôle, parce que le personnage est assez drôle, pas du tout accablé par l'administration et ainsi de suite, mais très joueur avec toutes les règles. Voilà.
Voilà plusieurs sillons que vous menez de front, avec talent et avec donc reconnaissance. On est très heureux que vous soyez passé par le studio de Supersonic ce soir, Mehdi Aoudig. On va continuer l'émission. Vous parlez de théâtre, du travail au théâtre et du travail sonore. C'est une chose que vous partagez avec notre invité de la deuxième partie de Supersonic, Eddy Ladoire, qui est installé en ce moment dans un studio de France Bleu Gironde à Bordeaux. On va parler avec Eddy Ladoire dans un instant, mais là on entre dans on va rentrer dans la conversation par du son, une autre production, une autre Mademoiselle, puisqu'on parlait d'une Mademoiselle qui rêve, une autre Mademoiselle signée donc Eddy Ladoire.
France Culture, Supersonique de Thomas Baumgartner.
Il y avait comme un soupçon, une ligne.
Mes règles vont bientôt arriver.
Je t'ai vu dans mon rêve. Tu étais là. Tu pensais que c'était ta chose.
Mademoiselle, un morceau, une pièce sonore issue d'un disque intitulé Always the Beginning, qui était sorti en 2009 sur le label Optical Sound. Bonsoir Eddy Ladoire.
Bonsoir Thomas.
Merci d'être avec
Bonsoir,
nous.
Bonsoir.
On entre comme ça dans la conversation par ce morceau qui ressemble à... Alors, je ne sais pas si on peut parler de film, de cinéma pour les oreilles, c'est toujours un peu rebattu comme expression, mais il y a effectivement des images, quelque chose de l'ordre du cinématographique. Et du New-Yorkais, en fait, c'était quelque chose de New-Yorkais, cet album, non, Eddy Ladoire?
La thématique était effectivement autour de la ville et un axe précis en fait sur New York. Mmh. Et dans cet extrait-là, en fait, on est plus précisément dans un rêve. Mmh. Et c'est un peu le bonus en fait de cet album, puisque Mademoiselle, en fait, c'est un projet d'installation plutôt plastique, en fait, plutôt à destination des musées, en fait, en tout cas des galeries, des choses comme ça. Où je raconte, en fait, c'est le point de départ, en fait, d'un couple qui se sépare. Et on a, au mixage, en fait, on entend assez peu, en fait, ses voix, mais on entend quelques bribes, comme ça, de choses qui se disent. Et c'est le point de départ, en fait, d'une série, en fait, d'œuvres, si on peut appeler ça comme ça, puisqu'il y a deux films, en fait, qui ont été réalisés en suivant, où on voit les acteurs, du coup, en fait, mettre leurs rêves en réalité, puisqu'ils se séparent. Mmh. Et ensuite, on suit la jeune femme. Après, on revient vers le jeune homme. Et puis, là-dessus, arrivent des installations sonores, des choses comme ça. C'est vraiment un travail de longue haleine, en fait, ce projet Mademoiselle. Voilà. Il y a la rencontre avec une jeune femme, d'ailleurs, Judith Gare, en fait, avec qui je partage ce projet depuis maintenant 6 ans.
Voilà. Le fait de rendre des paroles enregistrées, mais d'en donner des bribes. D'avoir des morceaux dont on pense qu'ils vont être intelligibles, qui ne le sont pas, c'est le meilleur moyen pour faire tendre l'oreille à qui veut écouter, ce qui est plutôt pas mal pour un créateur sonore, de faire tendre l'oreille. Dans ce que vous dites là, par cet exemple-là, on est d'emblée dans une question qui est au centre de votre travail, c'est-à-dire le dedans du studio, le dehors de la représentation, qui peut être aussi le dehors de l'enregistrement ou de la mise en installation. C'est votre mouvement de créateur sonore, ça a dit l'Adouard, non ?
Exactement, ouais. Moi, je suis quelqu'un qui a un double cursus, en fait, puisque j'ai fait des études aux arts déco, et je suis passé par le piano, et puis après par le conservatoire avec la musique électroacoustique. Mmh. Et ma principale interrogation est de savoir, en fait, comment faire écouter les choses aux gens. Et puis, mon petit truc aussi, c'est de mentir, en fait, d'un point de vue sonore, en fait, c'est de transformer ma réalité, en fait, j'adore ça. Et du coup, en fait, vraiment, mon travail est sur la fiction et la réalité, en fait, comment décaler ce qui se passe devant nous et raconter d'autres choses. Et effectivement, les voix, en fait, arrivent pour aller faire tendre l'oreille à l'auditeur, et j'adore ça, en fait. C'est mon jeu, mon dada.
Mais comment on ment avec le son ?
Ben, c'est toujours... Mon travail, en fait, est vraiment d'abord... Alors, est-ce qu'on peut l'appeler musical ou... disons musical, en fait, en tout cas. Mais moi, j'utilise beaucoup les micros, en fait, et le field recording. Mm-hmm. Et j'aime transformer, en fait, le paysage, le bâtiment, les choses comme ça. Et du coup, en fait, c'est avec des petites bribes, en fait, qu'on va décaler la réalité. Et c'est là que j'aime mentir, en fait, finalement. J'aime faire écouter des choses qui n'existent pas, même si, au final, en fait... l'idée, c'est qu'on soit quand même dans un paysage, dans quelque chose de vraiment réel. Voilà.
De la recréation d'un lieu, d'un espace.
De la recréation, exactement. Ouais. Ouais.
Mais c'est le mouvement qui est au centre du travail électroacoustique, non ? D'aller chercher le son et de le reprojeter, recréer de l'espace avec ce son transformé ?
Complètement. Mais je ne transforme pas. Ah. Je mixe, en fait, plutôt. En fait, je m'amuse à plus avec des effets, des choses comme ça, mais je transforme pas, en fait. C'est juste de l'ajout, en fait. C'est pour ça que j'aime à parler, en fait, de fiction et fiction-réalité. On sait pas vraiment où on est, voilà. J'aime jouer avec l'auditeur, en tout cas.
Ce jeu-là peut se mener, donc, aussi dans le lieu du théâtre?
Alors, complètement, ouais. Bon, là, évidemment, c'est moins évident, en fait, puisque la forme, elle est plus frontale, en fait, on va dire. Mm-hmm. Mais là, actuellement, en fait, on sort d'une création avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Fruleux. Et on a travaillé, en fait, sur un texte d'Edouard Glissant qui s'appelle Les Indes, mm-hmm. avec des musiciens formidables, en fait, que je vais citer parce que je les aime tellement, en fait.
Allez-y.
Thomas Savy, Raphaël Imbert, Felipe Cabrera et Sonny Troupé. Et donc, ils appellent Fruleux, en fait, au texte. Et effectivement, là, on est dans Glissant. Donc, Les Indes, en fait, c'est un texte un peu compliqué. Donc là, on peut pas mentir, mais on amène, en fait, on amène des ambiances. En fait, on va recréer des ambiances, en fait, pour dire et approfondir, en fait, le texte qui est déjà quand même bien costaud. Donc, alors, est-ce qu'on ment? Je sais pas. Est-ce qu'on s'amuse à bricoler? Oui. Est-ce qu'on joue de la musique? Oui. Est-ce qu'on... Voilà, on est dans une forme, en fait, un peu complexe, qui n'est pas spécialement du théâtre, qui n'est pas non plus du spoken word, mais qui est un peu tout ça, en fait, de la poésie jouée en direct, etc. C'est assez, assez beau.
Et autre question, est-ce qu'on écoute ? Réponse, oui.
Toute horreur crée son gouffre.
ainsi celle de la traite à nègres qui fit de l'Atlantique le plus grand oublié des cimetières du monde. Crâne et boulet relient les îles entre elles et les amarrent aux tragédies du continent. Le gouffre chante contre l'oubli, en roulis des marées, en mots de sel pour Glissant, pour Walcott et pour Camo Brathwaite. Fascine les siècles dans l'infini de ce présent où tout reste possible. Celui de l'Atlantique s'est éveillé. Clameur en Méditerranée, l'absurde des richesses, solitaire, les guerres économiques, les tranchées du profit, les meutes et les sectes, d'actionnaires, agences sécurité et agences frontières, radars et barbelés, et la folie des murs qui damnent ceux qu'ils protègent. Chaussures neuves et crânes jeunes font exploser les vieilles concentrations. Les gouffres appellent le monde. Les gouffres appellent au monde. L'assise ouverte, les vents qui donnent l'humain, l'humain qui va au vent, les aventures des peurs et des désirs, la seule richesse des expériences menées à la rencontre, les solidarités qui se construisent et qui construisent, les coopérations qui ouvrent et qui assemblent, et le suc et le sel de l'accueil qui ose.
D'Eddy Ladoire, la voix d'Isabelle Fruleux sur cet extrait donc du spectacle dont vous parliez, Eddy Ladoire, juste avant, Les Indes, autour d'un texte d'Edouard Glissant. Vous disiez à l'instant que, alors on l'entend là dans cet extrait, les différentes couches, le mixage finalement comme geste de composition en ce qui vous concerne, si je me trompe pas. On l'entend et on va le réentendre dans d'autres extraits. Et avec cette idée de réussir à faire entendre ce que vous disiez, faire tendre l'oreille tout à l'heure, c'est tout un mouvement de vos activités et de vos productions. Mais avant de vouloir faire entendre, vous avez vous-même entendu, et il y a une histoire très, très personnelle, une forme de révélation un peu intime, je ne sais pas si on peut vous en parler comme ça, mais qui est liée vraiment à votre enfance, et vous avez compris ça il y a quelques temps.
Il y a peu de temps, effectivement, en fait. Mes parents, en fait, avaient une boulangerie quand j'étais plus jeune, fin fond de la Dordogne, et toute petite boulangerie, en fait. Et ma chambre d'enfant était juste au-dessus, en fait, de la petite boutique. Mmh. Et j'avais ce souvenir, en fait, d'entendre, en fait, et de vivre l'expérience de la boulangerie en temps réel, c'est-à-dire, à 8h du matin, la porte qui claque avec la sonnerie, mais bien avant, en fait, à 5h du matin, un four qui se met en marche, en fait, une espèce de lance-flamme, en fait, parce que c'était un four à l'ancienne, donc pour chauffer le four, etc., pour que mon père puisse mettre le pain à chauffer, etc. Et j'ai vraiment, en fait, ces souvenirs précis, en fait, de ça, mais mes parents, effectivement, sont à la retraite maintenant, ont vendu la boulangerie, et j'ai revisité, en fait, la boulangerie il y a quelques années maintenant, peut-être 4-5 ans. Mmh. Et j'ai vraiment pris conscience, en fait, du fait que j'aime vraiment le son et j'aime l'idée, en fait, d'écouter du son et que ça vient vraiment de là. puisque j'ai revécu en fait une espèce de scène où j'ai compris que en fait tous les sons étaient associés en fait à la maison et à l'intime, et que c'est vraiment en fait cette envie de faire écouter les choses aux gens vient vraiment de cette expérience précise. Il faut savoir qu'en fait une boulangerie, c'était une boulangerie à l'ancienne évidemment, c'est très bruyant, et mon père en fait mettait son poste de radio à fond les gamelles en pleine nuit, mais avec ces bruits de pelle, de four, de machin, de clink-clang, etc. On était vraiment dans une espèce de composition en fait, musique concrète en fait, en temps réel. Et j'ai compris ça, et je me suis dit, mais tiens, mais ouais, ok, ça y est, j'ai compris pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ce métier en fait, et pourquoi j'ai envie de faire écouter du son aux autres, et puis d'aller fouiller dans l'intime en fait, vraiment d'aller écouter, prendre du temps pour écouter, c'est hyper important. Alors ça, c'est ce que je donne moi, c'est mon don, c'est ma manière de composer, etc. Mais voilà, j'ai vraiment compris ça il y a peu de temps, et ça m'a rassuré, et surtout en fait je me suis dit, mais voilà, enfin j'ai découvert en fait pourquoi j'aimais ça et pourquoi je voulais faire ça en fait surtout.
Mais vous pensez, dit Ladoir, que ça peut jouer, ça a pu jouer aussi sur jusqu'à l'esthétique de ce que vous produisez. Je pense notamment à la présence de certaines infrabasses qu'on a pu entendre là, d'ailleurs juste avant, qu'on entend dans d'autres œuvres, la question des nappes sur lesquelles vous posez aussi vos compositions.
Ouais, je pense, ouais, que en fait cet univers sonore en fait foisonnant a construit en fait mon oreille et ma manière en fait d'aller traiter en fait les fréquences ou les nappes. Effectivement, je suis beaucoup attaché aux infrabasses en fait, parce que je pense qu'il y avait une vibration monstrueuse en fait quand le four se mettait en route, évidemment. Voilà, tout ça, j'ai tout compris à ce moment-là en fait, et oui, je pense vraiment que ça m'a complètement influencé en fait dans ma manière de travailler, et dans ma manière de travailler le son en fait et le mixage. Et si on revient à ce qu'on disait au départ, en fait, je suis vraiment effectivement attaché à l'objet en fait studio, en fait, à passer du temps beaucoup en studio pour travailler, parce que c'est là que c'est mon instrument en fait fétiche en fait, je pense, et que du coup je m'alaxe et je crée en fait des choses pour essayer de rendre une esthétique pure en fait qui peut-être m'appartient, je sais pas. Alors là, j'ai pas la prétention de dire ça, mais de trouver une forme en fait d'écriture et une forme de son qui m'appartiennent, voilà. Je pense que ça vient vraiment d'ici,
Malaxer la matière sonore comme on malaxe d'autres matières. Alors quand on fait de la musique, faire un pain en général, c'est faire une erreur. En l'occurrence, ce serait plutôt le contraire. Donc la réussir un pain sonore serait réussir le bon mixage et le bon malaxage en ce qui vous concerne. Alors vous travaillez donc on l'a compris en groupe quand il s'agit de théâtre, mais par exemple en duo avec un garçon qui s'appelle Jérôme Alban un groupe qui s'appelle Year of No Light, c'est du post-metal, c'est ça? Et là encore, ce travail, c'est de composition, c'est un travail de composition qui intervient aussi, au moins autant, au mixage, en ce qui vous concerne.
Complètement. C'est un projet, en fait, qui part de ma pratique, en fait, justement, de l'écoute et de la captation, du field recording, au départ. Et on avait cette idée, en fait, de faire une musique continuum, une sorte de bourdon, en fait, ce qu'on peut appeler drone, en fait, dans la musique. Jérôme en fait est guitariste en fait dans un groupe, donc effectivement de post-metal en fait, quelque chose de très écrit en fait, très orchestré, et il avait envie de s'extraire un peu de tout ça pour travailler en fait des nappes de guitare, et puis mélanger à une sorte de field recording au départ, et puis après de synthèse, et puis de synthé, etc. Et on a assez vite compris en fait, en jouant tous les deux, que jouer en fait c'était agréable, mais c'était pas la principale activité qu'on avait envie de mener. On avait envie de faire du son, faire de la musique, mais le studio était la chose la plus intéressante pour nous. Et du coup en fait il n'y a que deux en fait disques qui sont sortis depuis maintenant peut-être 5 ou 6 ans d'existence de groupe. Mais à chaque fois en fait on met un temps fou, et on passe un temps justement fou en fait en studio pour vraiment en fait travailler les nappes, travailler les basses, les guitares, les choses comme ça, pour faire qu'à un moment donné, on ne sache plus vraiment si c'est une guitare, si c'est un synthé, si c'est une captation, ou un field recording, ou une porte qui claque, etc. On est vraiment dans ces choses-là. Et si on écoute bien, en fait, ces disques-là, il y a une matière très riche, en fait, et c'est des fruits, c'est le fruit, en fait, de gros travail de mixage. Ouais. Je pense qu'on passe énormément de temps, en fait, dans le studio,
Oui, le studio, la maison. Studio, ce studio dans lequel vous avez composé avec Jérôme Alban, Baron Ufo, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit?
Baron Ufo, oui, c'est le nom du groupe. En fait, on voulait s'attacher à une petite sorte de religion. En fait, c'était une contraction en fait, du Baron Samedi et du Ufo, le petit temple, en fait. Voilà.
Ben on écoute alors donc une co-composition avec Jérôme Alban. Attention, au tout début, ça peut faire un tout ça petit peu mal à l'oreille. Oui, ça pique. Vous parliez tout à l'heure de mentir ou de faire mentir le son ou de mentir avec le son. Il y a beaucoup de vos productions qui se retrouvent à être des installations sonores. Est-ce que là, il y a l'idée de l'illusion aussi, c'est-à-dire d'être avec vos sons à l'extérieur, d'être en extérieur et de créer voilà, des mirages sonores?
On est là-dedans en fait. En introduction, vous parliez en fait du cinéma pour l'oreille, de cette musique imagée ou de ces choses-là. Baron Ufo, c'est l'exemple même en fait d'une musique qui pourrait être dehors dedans, on ne sait pas, mais en tout cas quelque chose qui est complètement cinématographique en fait. Ouais. On est vraiment dans un objet en fait sonore improbable en fait, et j'aime encore une fois décaler effectivement les univers en fait. Est-ce qu'on est dedans, est-ce qu'on est dehors, je ne sais pas.
Est-ce qu'on est intime, est-ce qu'on est lyrique aussi?
Est-ce qu'on est intime, est-ce qu'on est lyrique? Effectivement, lyrique, je sais pas, intime, j'en suis sûr, puisqu'on va essayer de toucher, justement, par le mixage, en fait, les gens au plus profond, en fait, de leurs émotions, en fait, quelles qu'elles soient, que ce soit musical, en fait, comme cet exemple précis, en fait, de Baron Vaux, ou même dans des installations, ou alors je vais aller titiller, en fait, le spectateur par des mots, ou peut-être par des bruits, en fait, des choses comme ça, ouais.
Merci beaucoup, Eddy Ladouar, de nous avoir donné ce soir les quelques clés de votre univers sonore. On peut que conseiller aux uns et aux autres, on mettra évidemment toute une série de liens sur franceculture.fr, d'aller à la rencontre de vos pièces sonores, de vos installations et des productions qu'on trouve en ligne notamment. Merci à vous.
Merci. Merci Thomas. Thank you.
Et voilà, c'est la fin de Supersonic. Quelques mots d'agenda, puisqu'on vous tient. Vous êtes là. C'est le festival Extension en ce moment, un peu partout en Ile-de-France. Festival mené par La Muse en circuit, Centre National de Création Musicale. Il y a des concerts, des réjouissances donc un peu partout jusqu'au 20 mai, soit vendredi prochain. Et on reparlera de La Muse en circuit bientôt dans Supersonic. En attendant, le festival s'appelle donc Extension. Et puis, on parlait de Saint-Aune, la revue saintaune.fr. Figurez-vous donc qu'il y a des carnets en papier de la revue Saint-Aune. Saint-Aune qui publie d'abord sur papier et puis on retrouve certaines choses ensuite sur la revue en ligne. Voilà, c'est la version inverse de d'habitude. En l'occurrence là, les carnets de Saint-Aune auxquels on peut s'abonner. Le numéro 5 vous propose une rencontre avec la sonographe Cécile Liège et une revisitation de La Guerre des Mondes. Pour aller plus loin, vous avez franceculture.fr. L'émission est préparée et coordonnée par Inès De Bruyne, réalisée par Véronique Lamandour. Et au son supersonique, il y avait Guillaume Ledu ce soir et à France Bleu Gironde, Anaël Train. Dans un instant, vous retrouvez les nuits de France Culture. Et nous, on se retrouve samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien.